Vous écoutez
RMC.
RMC.
On n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas fait le boulot ce soir et on a tendu la joue pour se faire fesser.
Effectivement, si vous arrivez cric-crac, ben vous avez plus de chances de louper votre avion.
J'ai été frappé de voir que 99% des collaborateurs du club étaient marseillais. Et ça, ça va pas.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After avec Kevin Diaz, Simon Dutin et Walid Acharchou. On est ensemble jusqu'à 22h. Je vous rappelle que demain soir, on sera là aussi dès 20h avec un invité exceptionnel. Julien Stéphan va nous accompagner pendant 2h dans Génération After. On va évoquer bien son rapport au foot, son rapport aux joueurs, à la nouvelle génération, à la data notamment, à sa carrière aussi passée et à venir aussi, lui qui est à la recherche d'un club, soit en Ligue 1, comme il le dit, soit à l'étranger. Il est en train d'apprendre l'anglais notamment pour essayer d'aller toucher des clubs. Pourquoi pas allemand, pourquoi pas anglais, voilà. Pour,
c'est important de parler notre langue.
Tout à fait, c'est très important. C'est une jeune génération d'entraîneurs qui veut s'ouvrir à l'extérieur. En l'occurrence, Julien Stéphan sera avec nous demain à partir de 20h.
Très belle discussion tennis pub en off.
Oui, d'accord.
On ne pourra pas partager, mais j'ai bien aimé la vision tennis de Julien.
J'ai cru comprendre en off que tout le monde avait atteint un niveau exceptionnel en tennis.
Non,
en un an. Et que tout le monde avait passé une carrière professionnelle.
Sûr,
mais tu sais, justement. Juste, Simon a fait un tweet la semaine dernière sur ce qui se passe à la pub. Et je ne sais pas si vous connaissez Trevor Noah, mais qui avait, c'est un présentateur sud-africain, donc aux États-Unis, qui diffusait ce qui se passait dans ses pubs. Et franchement, c'est super intéressant.
C'est un peu dangereux quand même parfois.
Ah oui,
on se contrôle. Oui, on est le
off et le on.
On n'a aucun problème là-dessus.
Le tennis, justement, Roland Garros, ça va extrêmement vite. Eric Salio, Alcaraz et Tsitsipas.
Le train Alcaraz.
Oh, c'est impressionnant. 6-2 en 30 minutes. Et j'ai de la peine pour Stéphanos parce que on sait que c'est un très bon joueur. C'est un mec qui a fait finale de Chelem. Mais là, il boit le bouillon, mais c'est hallucinant. Quoi. Tout y passe. Accélération de coup droit. Oui, sans jeu de mots. Oui. Ouais. Accélération de coup droit, passing en bout de course, amorti de génie. Il y a des murmures dans le public, là, on les entend peut-être, et je pense que les gens sont bluffés.
Après, Eric, il ne l'a jamais battu, Tsitsipas, Carlos.
Je sais que c'est quasiment perdu, mais là, il n'a pas de solution. Déjà, il est en train d'implorer papa pour savoir ce qu'il peut faire. Parce que là, il est parti pour prendre une branlée.
De toute façon, il n'y a que deux joueurs qui peuvent sortir Alcaraz pour moi sur ce tournoi. C'est le vice de Djokovic et la folie de Rune. Sinon, derrière.
Ouais, mais je ne même pas. Je pense que c'est
non, mais si, non, mais si vraiment, il y a deux, mecs.
Voilà, sachant qu'on Tsitsipas, on parle d'un mec qui est trop vite. Mais finale à Roland Garros, qui met 2-7-0 contre Djokovic en finale à Roland Garros, qui est en train de se faire fessé par Carlos Alcaraz.
C'est pas tout à l'heure, c'est que le premier set.
À tout à l'heure, Eric.
2-3-2, je vous dis.
Xavier Grimaud est toujours avec nous. On parle du Stade Rennais, bien sûr, après la colère froide de Florent Maurice, justement traité selon lui. Tiens, Simon, ton avis là-dessus, est-ce que tu penses que nous avons été trop durs avec le Stade Rennais et qu'il faut rendre hommage au travail du club et de Florent Maurice en particulier?
Ouais, encore une fois, c'est deux questions différentes, Nico. Ouais, je trouve qu'on a été injuste avec le Stade Rennais, mais c'est un peu le jeu, effectivement, de la saison parce que tous ces clubs s'échangent les places. Walid me disait tout à l'heure qu'ils sont nombreux à avoir raté leur saison et que du coup, ça diminue un petit peu le relief du titre du Paris Saint-Germain. Mais bon, ouais, y a Monaco, y a Marseille, y a Lens. Bon, encore une fois, on parle d'un club qui a jamais été champion de France, quoi. Bon, qui termine quatrième derrière. Donc, ce PSG qui a vraiment été minable, mais Lens qui a été exceptionnel. Et l'OM qui bat son record de points. Alors même si effectivement la distribution aurait pu être différente avec cette dernière journée qui a un petit peu tout changé entre Rennes, Monaco et Lille, bah, je trouve que effectivement le Stade Rennais qui termine quatrième, qui assure sa place en Ligue Europa, assure, bon c'est un bien grand mot, bah, tu es obligé de saluer. Concernant Florian Maurice, bon il est un peu comme moi, il est capable de s'énerver même quand on l'attaque pas vraiment parce que bon je sais pas, il faut être philosophe. Non mais et là je parle sous le contrôle de Xavier, ça m'étonnerait qu'il ait pris des mines toute la saison en conf de presse. D'ailleurs, il n'est pas en conf de presse avant les matchs. Donc voilà. Après, effectivement, Walid le soulignait, c'est quand même une usine à gaz au niveau mercato Rennes quand même. Tu vois, quand tu vois, tu réussis à stabiliser quand même des résultats dans les cinq premiers du classement, alors que tu as un renouvellement de ton
équipe. T'as vendu Naïef Aguerd également.
Regarde, t'as Gouiri Kalibuendo, Rodon, Théat, Wu, Toko Ekambi, Mandanda, Spence, Xeka qui arrive, quant à Aguirre, Souleymana, Matistel, Laborde, Jonas Martin, Gomis qui s'en vont. Bon, et effectivement, après, démerde-toi, Genesio, avec ça. Oui. Effectivement, bon. Bon, et quand Genesio fait le boulot, je pense que Florian Maurice,
c'est le verre à moitié plein à chaque fois ou le
verre bon, à moitié vide. Il y a des risques de prix, effectivement.
On va recevoir Stéphane demain. Stéphane a fait podium. Il les a emmenés sur les épopées européennes.
L'épopée, on va se calmer quand même.
Bon. Enfin, en mini épopée, en tout cas pour Rennes, sortir le Real Betis. Derrière, on a cette finale contre le Paris Saint-Germain de Coupe de France qui restera quand même marqué à vie. Moi, j'ai ce petit. Sous Genesio et Florent Maurice, j'ai quand même ce petit regret, c'est que en coupe, il manque quelque chose et que
un supplément d'âme,
et que on a fait des émissions l'année dernière en juillet, beaucoup voyaient cette équipe là
sur le podium. Et donc j'ai pas le 32-16. Paul, le 32-16 qui était avec nous, qui patiente depuis un moment, je rappelle que Xavier est toujours avec nous, on parlera mercato dans un instant avec Xavier. Paul, bonsoir.
Oui, bonsoir à toute l'équipe.
Heureux de t'accueillir dans Génération After avec Simon Dutin, Kevin Diaz et Walid Acharchour. Bon, comment tu juges la réaction de Florent Maurice?
Bon, ça tombe bien, j'ai regardé cet après-midi la conférence en entière, hein, je pense, les 40 minutes là, à peu près. Je pense qu'il y a un manque de... Bon, il était déjà très énervé dès le début. Je pense qu'il avait des comptes à régler, ça s'est senti direct, visage très fermé. Moi, ce que je comprends pas, c'est que je pense que même là, ce que j'entends, ça me fait halluciner. Je pense que pour une fois, là, les journalistes, ils ont rien à se reprocher. Ils ont juste fait leur job. Il faut juste remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Et il a oublié d'en parler. C'est qui nous vendait faire mieux que l'année dernière? C'est les journalistes ou c'est lui qui est dès le début de saison?
C'est lui.
C'est lui. Donc je pense qu'il y a eu une petite
entame. T'es obligé, il va pas vous dire on va faire moins bien que l'année l'année dernière.
Mais je suis pas d'accord.
Paul et après Xavier.
J'ai que 3 minutes, donc je vais pas être d'accord du tout avec ça. C'est qu'on n'est pas obligé de dire on fait mieux que l'année dernière. On peut dire aussi que Rennes est taillé pour une Coupe d'Europe. Après, moi, je connais pas de gens dans le foot, surtout professionnel, et même dans le foot amateur, quand on fait un sport, c'est pour faire mieux. C'est la base. Donc, il n'y a pas besoin de le dire. C'est lui qui l'a dit.
Mais non, Paul. Bon, vas-y,
c'est
fini.
C'est lui qui l'a dit. Bah, attendez.
Tu vas lui reprocher de ne pas le dire.
Paul, s'il te plaît, tu peux te dire que tu veux faire mieux, mais quand tu perds ton meilleur joueur après quelques mois.
Laissez
Paul terminer.
C'est intéressant ce qu'il dit, pour moi.
Je l'ai entendu, Terrier. On a réussi là, les 5 derniers matchs à pas Terrier, on a réussi à se remettre dedans. Moi, j'arrête pas de dire depuis que je passe, parce que là, je suis un peu énervé aussi d'entendre tout ça. Je trouve qu'on est très gentil avec Rennes. On a été trop gentil pendant 3 mois.
Je suis d'accord.
On a perdu des points à cause pas du président, pas des supporters. Enfin, le président aussi en partie parce que c'est une équipe. Mais il y a bien Bruno Genesio et son équipe. Florent Maurice est dedans. Ils ont le droit aussi de dire, écoutez, là, on fait un bilan à la fin d'année. On est dans les clous. Effectivement, on s'est un petit peu enflammé, peut-être on a manqué un peu d'humilité en vous annonçant qu'on ferait mieux que l'année dernière. On aurait juste dû dire déjà on est taillé pour la Coupe d'Europe, après on n'avait pas se priver si on avait le potentiel pour aller plus haut. Effectivement, il y a des choses qui s'entendent, on a perdu beaucoup de joueurs, il le dit à juste titre, donc il y a des choses qui s'expliquaient à la fin. Par contre, on oublie de revenir sur les 3 mois où on a mangé une purée, quand il dit que les supporters sont régalés. Non, l'année dernière, je me suis régalé.
Exactement.
Cette année, en termes de maîtrise, il y a eu très peu de matchs avec de la maîtrise. Et que même quand il y avait Terrier, on a eu beaucoup de chance que ça tournait en notre faveur, alors qu'on se faisait, désolé du mot, mais chier.
Je suis content que tu relèves ça.
Il n'y avait pas beaucoup de maîtrise. Genesio a voulu opter pour un 4-4-2 en début de saison qui nous a mis déjà dedans. Et que dès qu'on nous enlève le meilleur homme de l'équipe qui marchait sur l'eau, on a vu qu'on avait beaucoup de difficultés.
Je vais donner la parole à Xavier, mon cher Paul, également.
C'est l'arbre qui cachait la forêt.
Xavier, tu voulais réagir tout à l'heure, effectivement, à l'argument de l'annonce, la promesse de Florent Maurice, faire mieux que la saison précédente.
Oui, non, mais effectivement, ils l'ont dit, mais l'objectif principal, c'était se qualifier pour une Coupe d'Europe tous les ans.
Évidemment.
Effectivement, après, en disant quelle place avoir, Florian Maurice, Olivier Clarec disait l'objectif, c'est toujours de faire mieux. Mais comme disait Simon, s'il disait le contraire, on aurait dit, mais c'est quoi cette ambition? Quatrième, maintenant, ils visent pas la troisième place. Ce qu'ils considèrent, les Rennais, c'est que ils sont finalement avec le budget du club, la grille salariale du club et la gestion du club, parce que François Pinault, c'est un milliardaire, on le sait, mais regardez la gestion du club de Rennes. Le club se défend, c'est une gestion de bon père de famille. C'est un club qui est jamais en déficit, c'est un club qui est même dans le vert avec tous les investissements qu'ils ont faits.
C'est plus de 30 millions d'euros, je crois, la balance excédentaire.
Ouais,
c'est beau, hein, quand même, dans le football moderne.
Plus ces options de Badé, c'est très rare, Kevin, plus ces options de Badé et de Guirassy qui vont être levées. Donc le club considère qu'il travaille mieux que des grands clubs, à commencer par Nice, pour ne pas les citer, par Lyon, par Monaco, qui, eux, travaillent mal, enfin moins bien que Rennes. Et ils trouvent que Rennes,
je trouve ça dur, Paul, même si j'entends ce que tu dis, c'est juste sur le fond de jeu, les prestations purement sportives, etc. Mais quand même, tu peux pas reprocher à ton directeur sportif d'être ambitieux. Pas nous, pas ici dans l'after.
Mais pourquoi il nous reproche l'exigence alors, Flo Maurice?
Non, mais attends. il te dit que il a été ambitieux au début, mais puis il s'est passé quand même des choses qui fait que la saison a été compliquée. Je vais pas te rappeler l'histoire des blessures et tout. Ok, ils ont eu une grosse déception en Europa League, mais derrière ils finissent quand même quatrième. Le bilan, il le dit, tu le fais à la fin, et ça tu peux pas lui reprocher. Ouais. Moi, je te donne juste un exemple. Vous aimez que j'aime bien prendre des exemples du sport américain. Si ceux qui suivent un petit peu la NFL, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans de l'after. En NFL, il y a 32 équipes. Les 32 équipes, elles veulent être championnes du monde. Ils appellent ça. Les 32 équipes, en fait. Là, la 32 loin, équipes, ils disent, on veut être championne du monde.
Mais c'est pas pareil. C'est pas le même championnat. Il y a une répartition des talents différente.
Peu importe. Peu importe. Aujourd'hui, tu ne peux pas reprocher à un gars qui veut être ambitieux de faire juste mieux que la saison dernière.
Est-ce qu'on peut être exigeant envers Rennes? Est-ce que c'est possible?
Mais les premiers qui sont exigeants, c'est les gens qui travaillent à Rennes.
C'est très bien. Non, mais quand Flo Morris nous dit, on n'a pas les tenants et les aboutissants. Bien évidemment. De toute façon, si j'appelle Flo Morris en pleine saison, quand c'est mauvais sur les deux mois qui ont précédé le sprint final, Flo Morris va me raconter des histoires en me disant que tout va bien. Bon, bien évidemment,
le jeu valide, c'est qu'il critique. Et le jeu, c'est qu'il te renvoie tes critiques s'il finit quatrième.
Il finit quatrième. Mais le résultat, et je vais terminer là-dessus, ça va durer une phrase. Le temps d'une phrase. Mais faut pas oublier que sur la fin. La fin de saison, tu joues 3, tu joues à Ajax.
Tout le monde les a joués à un moment dans la saison.
Je te dis juste que tu profites aussi à un moment donné. Sur la fin de saison, oui, t'as perdu contre Lyon piteusement il y a 3 semaines, t'as perdu contre Nice, t'as perdu contre Montpellier. Moi je dis juste que la valeur des matchs de Rennes, cette saison.
Ces équipes-là, elles étaient pas avec 10 points d'avance puisqu'elles avaient déjà joué 3, jamais joué et tout.
Non, mais Simon, bravo à Rennes.
Tu l'entends, ils disent quatrième parce qu'ils ont
Simon, tu l'entends. Stop. Bravo à Rennes. Maintenant, on va pas me faire croire.
La phrase, elle est finie. Là.
Non, mais on va pas me faire croire cette saison que tout a été beau pour Rennes. Et quand
personne n'a dit ça.
Voilà, c'est tout. C'est ce qu'on dit. Bon,
c'est le temps d'une phrase très longue. Merci Paul. On a fait le 32-16.
Salut Paul. On le fait 25 millions d'euros. On peut pas être exigeant avec cette équipe.
Justement, Xavier.
Je suis désolé.
Tu confirmes effectivement que Rennes a trouvé un accord avec Enzo Lefebvre, le Lorientais, bien sûr.
Oui, alors c'est un joueur qui est suivi depuis très longtemps, notamment par Florian Maurice. Alors, accord de principe entre le joueur et le club. Enzo Lefebvre, on s'attendait pourquoi pas à le voir partir à l'étranger. Finalement, il ferait le choix de franchir un palier un peu moins haut, entre guillemets, pour découvrir la Coupe.
Il a 23 ans.
Alors après, il a 23 ans. Alors, ça rentre pas totalement dans l'affiche, dans le CV que des joueurs que cherche Florian Maurice sur ce mercato, parce que Rennes est censé aller vers des joueurs un peu différents des mercato, à savoir des joueurs plus aguerris, plus matures, si possible avec expérience européenne. C'est ce que nous a dit Florian Maurice, c'est ce que veut Bruno Genesio. Il a mis un peu de pression d'ailleurs il y a quelques mois pour justement avoir du poids sur le mercato et avoir ces joueurs-là. Sauf qu'Enzo Lefebvre, bon, c'est un très grand talent, il a déjà 3 saisons pleines en Ligue 1, donc ça paraît quand même une opportunité, surtout que le joueur veut venir. Maintenant, Loïc Ferry et Lorient, très dur en affaires. Souvenez-vous de Terem Moffi, où Nice a voulu faire baisser pendant des semaines et des semaines le prix. Finalement, ils ont payé ce que Lorient voulait. A priori, Lorient voudrait au moins 25 millions. C'est un peu cher pour Rennes pour le moment. Ça peut durer encore un peu, cette histoire, mais Lefebvre voudrait effectivement aller à Rennes et uniquement à Rennes.
Ce serait une super pioche, Xavier. Mais encore une fois, comme pour Gouiri, comme pour Kalimuendo, on a le droit d'avoir de l'exigence avec ces montants de transfert, même s'ils vendent très très bien. Il y a très peu de clubs aujourd'hui en France qui sont capables de mettre 25 millions d'euros sur Kalimuendo. 25 millions d'euros sur Lefebvre. Et ça va aussi avec l'exigence.
Merci encore à Paul. Merci Xavier. On te retrouve très vite sur RMC. Bonne soirée à toi. Dans un instant, nous allons évoquer le cas de l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria a parlé hier. Il veut un coach avec un style de jeu rock'n'roll, offensif, Pimenté. On l'écoutera d'ailleurs. Mais a-t-il les moyens de ses ambitions? On va faire le débat dans un instant avec Olivier Dacherchour, Kevin Diaz et Simon Dutin. On ira rapidement à Roland Garros. C'est un écarissage sur le cours Philippe Chatrier. Alcaraz se balade, écrase.
Ça veut dire?
Il est en train de détruire.
Ok, que je note, moi j'ai pas ce mot là.
Détruire,
dans mon lexique.
Tu l'as pas celui-là?
Dans ton livre,
dans le livre.
Moi tu sais que j'ai 10-12 mots, hein. Je fonctionne avec 10-12 mots.
Pourtant, tu fais des phrases hyper longues.
Ouais. C'est très long pour toi.
C'est vrai que c'est répétitif.
Allez, restez avec nous dans Génération After. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, avec Walid Acharchour et Simon Dutin, Génération After, comme tous les soirs sur RMC de 20h à 22h. La première heure sera bientôt disponible en podcast avec ce débat brûlant autour de la saison de Christophe Galtier, notamment le tennis. Rapidement, Eric Salio, essaie de faire aussi rapide qu'Alcaraz, a priori ce soir face à Tsitsipas.
Ah, c'est une sorte de passage à l'abattoir, oui, tu avais tout résumé. 6-2, 2-1, avec un break déjà dans le deuxième set pour Carlos Alcaraz qui émerveille. Franchement, il émerveille les 14 000 spectateurs. Est-ce qu'il va pouvoir tenir le rythme? C'est la grande question et pour l'instant, Tsitsipas est à la rue.
Igor Tudor est donc parti, n'est plus entraîneur de la
Olympique de Marseille.
Point textile, Kevin avait raison, c'est la tenue de Alcaraz me fait penser au Nigeria.
Tout à fait. C'est un hommage au Super Eagles. Magnifique. La tenue de Rune à Monte Carlo.
Pablo Longoria est à la recherche active d'un nouvel entraîneur pour l'Olympique de Marseille. Et il a toujours une idée très précise de ce qu'il veut sur le banc. Écoutez, c'était hier en conférence de presse.
Il y a des contacts, oui, c'est normal. Ce que c'est important, spécialement, c'est de bien établir les profils du coach et de bien connaître les coachs, que c'est un style de jeu qui correspond. Il y a un style qui doit être clé, parce que spécialement, on doit faire du vélodrome une force et pas une faiblesse. Et pour faire du vélodrome une force et pas une faiblesse, on doit jouer dans une façon qui plaît à notre public, que c'est un public passionnel. Et comme tous les publics passionnels, tu as besoin d'avoir un jeu offensif avec une transition offensive qui met de la vitesse, si on peut dire comme concept général, un peu de rock and roll, un peu de pimenter dans la façon de jouer à niveau offensif.
J'adore comme il dit rock and roll. Un jeu rock and roll, pimenté.
Rock and roll.
Et très
bonne
offensif.
Expression de boomer, ça. Rock'n'roll.
Tu trouves rock'n'roll?
Ah ouais.
Rock'n'roll est éternel,
c'est
mon cher.
Interdit, Simon. Oui, bien sûr.
C'est jamais interdit, pourquoi? Mais ça existe.
Quoi? Ah non, mais le rock, oui. Tu fais les pas ou pas?
Ah, le rock'n'roll, d'accord.
Bien sûr, l'expression dire un truc un peu rock'n'roll, c'est, ouais, c'est bon, bref.
Bon, les gars, comment vous lisez cette déclaration? Est-ce que vous trouvez que ce style, cet entêtement presse de Longoria à vouloir un jeu spectaculaire, il parle du vélodrome en l'occurrence, et adapté à l'ambition du club, aux moyens de ce club, c'est exigeant. Il faut les joueurs.
J'ai une question pour mes collègues. Pour toi, Nico.
On est que des collègues. Hein.
Est-ce que...
On n'est pas des amis. Ouais. Ouais, n'allons pas trop loin.
Il a pas de familiarité. Voilà, on est des collègues. C'est mieux qu'on
fère. Déjà, il nous pose des questions déjà.
Oh, messieurs, vous savez que collègue en Marseillais, est-ce que ça veut dire ou pas?
T'es Marseillais maintenant.
Ah, non, on parle de Marseille. Là, je fais comme Nathan. Quand on parle de Marseille, je dis tiens, tout ça.
C'est vrai, c'est incroyable.
T'es en mode collègue. Donc, les collègues, on est d'accord quand même que. Juste petite apportée, mais Igor Tudor, c'était un jeu rock'n'roll.
Oui.
Droit au but.
Oui, quand même.
C'est un jeu hard rock, moi, je dirais.
Globalement,
ouais. C'est donc, du hard rock.
Aujourd'hui, tout ce que dit Pablo Longoria, c'est qu'il veut un football moderne, en fait. Là, il a employé des mots un peu rock'n'roll, pour le coup. Mais c'est un football moderne. C'est-à-dire qu'il faut aller vite dans les transitions pour déséquilibrer des blocs back.
Ça, c'est quoi, football moderne? Tu considères que Guardiola, c'est un jeu rock'n'roll?
Mais bien sûr, aujourd'hui, Guardiola.
C'est rock'n'roll? Rock'n'roll, c'est...
Non, mais attention, Guardiola a deux choses.
Tout le temps.
Guardiola,
c'est une maîtrise.
Guardiola, c'est un football de maîtrise et de possession parce qu'il a souvent la meilleure équipe sur le terrain. Mais Guardiola a beaucoup changé. S'il a pris Ederson, c'est parce que il veut aussi des transitions rapides. Il veut être capable d'aller vite vers l'avant. Quand tu prends des joueurs comme Varès, c'est des joueurs qui vont percuter. Donc, il sait tout faire. Guardiola, c'est le meilleur. Mais si on repart à notre niveau, Ligue 1, c'est un jeu moderne aujourd'hui. C'est un jeu qui va vite vers l'avant. C'est un jeu qui est capable de déséquilibrer des blocs. Mais comment tu déséquilibres un bloc bas aujourd'hui? Je me tue à le répéter tous les week-ends parce qu'on me dit souvent, ah ouais, mais bon, là, face à un bloc bas, ils ont du mal. Tout le monde a du mal. Même Guardiola, il a du mal face à un bloc bas en première ligue. Mais aujourd'hui, le football de Longoria, c'est le football d'Igor Tudor. C'est un football agressif où il faut presser, où il faut dominer ton adversaire, où il faut être protagoniste et il faut arriver à marcher sur tes adversaires en allant droit au but. Ça tombe bien, c'est la devise de l'OM.
Mais en tout cas, j'aime beaucoup le discours de Pablo Longoria, je stream totalement ce qu'il raconte en conférence de presse. Même si, attention, l'année dernière après Sampaoli, il avait dit que l'OM n'avait pas les moyens de jouer le jeu de Sampaoli, c'est-à-dire que
pour voilà.
Lui, ouais, c'est-à-dire
mais que le jeu de Sampaoli.
Est-ce que Tudor il jouait comme Sampaoli?
Il veut pas forcément du Tudor. Hein,
c'est différent.
Décollé encore là.
D'accord, mais,
non, mais c'est différent. C'est pour ça que
il veut moins de marquage individuel. Il veut.
Non, mais c'est pour ça que j'allais y venir, c'est que
plus de panache.
Il a dit qu'il veut moins de marquage individuel.
Pour moi, le jeu de Sampaoli, le jeu de Tudor est très très différent. Mais il avait expliqué, je crois que c'était un interview dans le CFC avec Hervé Matou, que aujourd'hui pour jouer un jeu de position, ça coûtait énormément d'argent parce qu'il fallait des joueurs de très très haut niveau dans la compréhension. Et c'est pour ça qu'il a voulu il avait désiré l'arrivée de Igor Tudor parce qu'il pensait que avec un jeu un peu plus foufou, un peu plus moderne, avec un gros pressing, avec aussi une verticalité un peu
pour
plus
moi,
présente.
Sampaoli, c'est beaucoup plus foufou qu'Igor Tudor.
Ouais, il y a
Sampaoli, ça ressemble à rien des fois.
Moi, je pense
des arrières gauches qui a pas d'arrière où il y a pas d'arrière gauche, des milieux qui sont arrière droit.
Ça joue quand même après plus dans la moitié adverse que
après
Tudor,
le terme
priori,
pas du tout.
Le terme foufou.
Regarde la possession.
Après tu peux avoir plusieurs folie dans un football. Ouais. Tout dépendra de
l'agressivité que tu mets à la perte du ballon.
Oui,
voilà, c'est ça.
Oui, le pressing et la qualité de la hauteur de récupération. Mais moi, ce que j'aime, c'est que on va continuer à avoir des entraîneurs intéressants sur le jeu côté de l'Olympique de Marseille. Mmh. Et je suis persuadé que Longoria continuera à essayer de chercher ces profils-là. Et quand on entend Paolo Fonseca, j'aime bien. Quand on entend Italiano de Fiorentina, j'aime bien.
Gasperini.
Voilà, on va continuer à avoir des entraîneurs intéressants à l'Olympique de Marseille, et ça c'est bon pour le championnat.
Être avec nous.
Et au-delà de l'Olympique de Marseille, même dans notre championnat, je trouve que les noms qui circulent pour remplacer les entraîneurs en place sont très très intéressants, je trouve.
Benoît est avec nous au 32-16 supporters de l'Olympique de Marseille. Salut Benoît.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
Salut Benoît.
Tu t'accueilles dans Génération After sur RMC, Benoît.
Eh ben oui.
Merci Benoît.
Alors, toi tu voulais réagir notamment, et je vois sur mon écran une idée qui peut faire bondir beaucoup ici ou à Marseille, et pourquoi pas Galtier ?
Hein ? Oui, moi je dis pourquoi pas Galtier ?
Laissez-le parler, oui, s'il vous plaît.
Alors pour moi, il y a deux choses qui peuvent faire en sorte que Galtier peut être un bon entraîneur pour l'OM. D'abord, faut pas oublier ce qu'il a fait avec Lille. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui, avec peu de moyens et avec simplement des recrutements intelligents, avait réussi à faire une saison quand même plutôt lunaire avec Lille. Et ça, je pense qu'il l'a pas perdu. Simplement, il a pas choisi le bon club cette année parce que c'était un club pas dimensionné à sa taille. Mais dans le contexte de l'Olympique de Marseille, moi, je reste persuadé que même le côté rock'n'roll, même si c'est pas toujours foufou ce qu'il a pu proposer cette année, moi, à Lille, je l'ai vu faire des choses qui pouvaient tout à fait s'apparenter au jeu de l'OM. Et je pense qu'on aura la grinta en plus avec lui pour aller chercher peut-être le supplément d'âme qui manque à certains moments, justement pour ne pas perdre les matchs qu'on a perdus cette année. Hein.
C'est un canular que tu nous fais.
Et pourquoi
ou...
ce matin? C'est son idée.
Non, mais attention.
C'est argumenté en plus.
Je critique pas l'idée de vouloir Christophe Galtier comme entraîneur. Je critique l'idée de vouloir Christophe Galtier en entraîneur en juin 2023, alors qu'il sort du Paris Saint-Germain. C'est impossible.
Il sort de la lessive
PSG. Il faut savoir oublier.
Mais à Marseille. Alors, franchement,
je pense qu'il est grillé à vie à Marseille, c'est terminé.
Mais ce sera plus jamais un collègue.
Pour une grosse période en tout cas. Je pense que Longoria, déjà, j'ai perdu le nom de l'auditeur, excusez-moi.
Benoît,
déjà, je pense qu'avec tout le respect que j'ai pour toi, je pense que Longoria, dans sa shortlist de 15 entraîneurs,
c'est bien.
Galtier n'est pas dedans.
Même dans les 50.
Mais parce qu'aujourd'hui, dans tout ce qu'il recherche et dans tout ce qu'il nous explique en conférence de presse, et moi, je n'insulte pas Galtier. Galtier a montré de la qualité à Saint-Etienne, à Lille. C'est un bon entraîneur de Ligue 1, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais dans ce que recherche l'Olympique de Marseille, dans la version 3 entre guillemets du projet de Longoria, un entraîneur comme Christophe Galtier aujourd'hui c'est trop peu, c'est terminé. Il lui faut un entraîneur cérébral, il lui faut un entraîneur qui tactiquement éveille son effectif.
Il lui faut un entraîneur protagoniste,
un entraîneur moderne. Et moi je suis désolé, même à Lille, Galtier a fait du très très bon boulot, je répète, du très très bon boulot, mais tactiquement ça restait quand même scolaire, ça restait quand même un football efficace, fiable, compétitif, mais scolaire. Et je pense pas que pense pas que Longoria c'est ce qu'il recherche.
C'est plutôt du classique.
Respecte un peu la musique classique quand même.
Je pense pour terminer que avec ce qui s'est passé sur les deux dernières années, avec les coachs, que ce soit Sampaoli ou Igor Tudor, avec les supporters, où les supporters ont été très très exigeants avec ces deux messieurs, c'est pas faire un cadeau à Christophe Galtier de le ramener à Marseille.
Non mais les gars, la rivalité entre clubs, ça existe encore. Je suis désolé, Christophe Galtier, je pense que même les supporters marseillais ont compris que financièrement et en termes de opportunité de carrière, c'était difficilement refusable pour un entraîneur, même s'il a été un joueur emblématique de l'OM. Ok, ça on l'a compris, mais derrière tu peux pas revenir à l'OM.
Mais pas tout de suite.
Comme dit Nico, peut-être dans 10 ans,
bien
dans 15 ans.
Tu peux faire une transition PSG à OM comme ça.
Mais là c'est impossible, cher Benoît. Je suis désolé, si t'es un grand supporter de l'OM, tu ne peux pas, tout Christophe Galtier qu'il est, ancien joueur du club, tu peux pas.
Benoît, si ça arrive, sincèrement, je te paye un très très beau resto.
Tu laisses tes coordonnées, Benoît.
Où tu veux, et on parle de foot pendant toute la soirée. Il
descendra à Marseille,
avec grand plaisir.
Resto.
Si Galtier signe cette saison à l'OM, alors là.
Tu connais un bon gastro à Benoît, à Marseille, Benoît.
T'es illimité.
Bon.
Benoît, merci pour ton idée originale, en tout cas. C'est la tienne, elle t'appartient.
Originale,
c'est
le mot.
Elle est exclusive, même. Bonne soirée à toi, tu viens quand tu veux sur RMC.
Merci, collègue.
On va prolonger sur Marseille, bien sûr. Longoria, qui explique également que désormais, c'est terminé. Il veut un coach qui fait l'effort de parler français. Kevin, tu voudras parler de ça, effectivement. On parlera aussi de l'avenir d'Alexis Sanchez, également.
Et Laurent Blanc aussi.
Laurent Blanc, on va le garder pour demain, mon cher.
Ah non, mais...
Ton avis, tu vas développer devant Julien Stéphane.
Je me suis fait trapper.
On verra si t'es bon devant Julien Stéphane demain.
Je me suis fait trapper.
Il faudra signer devant Julien Stéphane.
Tu t'es fait pirater ton stream.
Que Laurent Blanc ne doit pas rester en train de l'OL.
T'as pas rebondi sur stream.
J'aime bien, j'ai noté.
Je stream, j'écoute, j'adhère.
Le tennis, rapidement avec Salio. Comment ça se passe pour Tsitsipas face à Alcaraz?
Pas bien pour Tsitsipas.
Pas bien. 58 minutes de jeu. Je vous ai à peine annoncé le score. 6-2-4-1. 6-2-4-1, c'est
le break.
C'est fou. C'est fou comment il le démolit. Et tout y passe, hein, dans tous les compartiments. C'est Da Fonseca, une fois, qu'il avait dit, il lui fait l'amour sans les primaires, non?
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Il est un peu dans cette lignée.
À tout à l'heure, Eric. Hein, beaucoup de réactions sur Eric Studio après la proposition originale de Benoît au 32-16. Sur la chaîne Twitch d'RMC Sport, d'ailleurs, où nous sommes en direct, messieurs. MK nous
c'est
dit.
C'est comment la Twitchery?
Tiefada Benoît, c'est un troll. Moustapha nous dit, et pourquoi pas un binôme coach Courbis Dimeco? Pourquoi pas à Marseille? On nous dit également, c'est encore un supporter parisien qui essaye de refourguer Galtier pour enfoncer l'OM. Voilà. Parmi les réactions sur la chaîne Twitch d'RMC Sport, où vous êtes très nombreux à nous regarder, bien sûr,
tous les soirs. Bien évidemment.
Alors, viens dans un instant, on prolonge sur Marseille.
J'ai vu Kevin sur Twitch tout à l'heure, à 18h30.
Ah oui, il était bon ou pas? Il y a une grosse phrase qu'on peut sortir?
Toujours très très bon, il y a de la punchline.
Si tu veux savoir, le replay est disponible.
D'accord, très bien. A tout de suite pour Génération After avec Kevin Diaz, Simon Dutin et Walid Ajarchour.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, avec Simon Dutin, avec Walid Ajarchour. Hein. Je vous rappelle que nous sommes également en direct sur Twitch, la chaîne Twitch d'RMC Sport. Ils ont dit bonsoir à Lému, les gars.
Salut Lému.
Qui tient avec son équipe.
Salut Lému.
La chaîne RMC Sport qui grandit, la chaîne Twitch d'RMC Sport, les gars. Alors, en nombre d'abonnés.
Gros boulot.
Ça devient phénoménal. 184 000 abonnés en moins d'un an d'existence. Voilà, bravo à vous, les amis.
Avec l'arrivée des joueurs en Arabie Saoudite, là, le Twitch,
ça va être pas mal. Avec Benzema, d'ailleurs, c'est officiel. Benzema a déjà posé avec ses dirigeants en Arabie Saoudite ce soir.
Du coup, il a choisi quel club alors?
Al-Ittihad, je crois.
Okay. Pas mal près de la mer.
Okay.
Une petite session de jet ski, Karim là-bas.
Et on a Stéphane aussi,
qui adore le jet ski.
Il va prendre 600 dans le deuxième. Il est écœuré, il parlait avec son coach, avec son père et coach.
On dirait Walid face à Kevin en plein débat dans Génération
After. Ah ouais, je suis souvent écœuré. Hein.
Allez, Eric, 3 balles de 7, Eric Salio justement.
Déjà, ouais. 64 minutes de jeu. Je sais pas si vous vous rendez compte.
Il est appuyé, Eric.
64 minutes de jeu.
C'est un quart de finale.
2-5-1. On parle là d'un finaliste de Roland-Garros, hein, qui a jamais pris une tôle pareille, même si j'étais en train de rechercher, il y avait eu un 6-4, 6-2, 6-0 face à Nadal en demi-finale de l'Open d'Australie 2019. Mais là, c'est sur sa terre. Il adore la terre battue et il n'arrive pas à s'exprimer.
Ah, mais Eric, il parle à son père, là, mais j'ai jamais vu ça. Il cherche des solutions, il est groggy.
Ouais, il est KO debout parce que
beaucoup d'expressions.
Il râle avec des caramels dans tous les sens. Ouais, l'autre lui fait des trucs mais insensés.
Non, mais il est dans sa tronche là. Je crois qu'il a 2-3 maisons dans sa tête. Hein.
Il y a du monde. Ouais. Il y a un châtrier à qui j'ai fermé.
Deux, peut-être que le public peut rentrer dans la danse et le soutenir.
On n'a pas ce sentiment que le public soit à fond sur Tsitsipas. Hein.
Si, parce qu'ils veulent du spectacle, ils veulent du sang, ils commettent une double faute. Voilà. Ah ouais. 2-7-0.
Voilà.
6-2.
Sans émotion. Le silence.
Ça me rappelle. 2-1. Quel
public a l'air effaré, mon cher.
Ça me rappelle ce que j'ai mis à Kevin Diaz.
Jamais. C'est faux. Tu n'as rien mis à Kevin Diaz, tu n'as jamais joué au tennis contre Kevin Diaz.
En tennis, on peut
Alors, les gars, Longoria a évoqué une autre évolution à Marseille. Il veut un coach qui parle français. Écoutons le patron de l'OM.
Je réponds avec trois choses. Les langages de football sont universels. En même temps, c'est un plus, parler français, parce que c'est la langue. On a la règle qu'on est obligé à parler français. C'est une question de respect, c'est une question d'adaptation de l'environnement. C'est un plus pour l'entraîneur, ça c'est en réalité. Je ne vais pas plus accepter le fait d'avoir un coach qu'à la fin d'une saison, il ne parle pas français. C'est quelque chose de respect de la culture et respect de l'institution et respect de ses supporters. Je crois que c'est nécessaire pour s'ambiancer dans un territoire.
C'est peut-être pour ça qu'il est toujours parti. Hein. Longoria lui a mis une condition, il faut que tu parles français maintenant. Et non, j'ai pas envie.
C'est exceptionnel quand même. Pourquoi il a pas demandé à Sampaoli de parler français à la fin de la saison? Pourquoi, du coup, certainement échaudé par l'expérience avec Sampaoli qui ne parlait pas français. N'a-t-il pas demandé à Igor Tudor à son arrivée? Ah oui, par contre. Donc là, il a fallu deux expériences avec deux entraîneurs différents pour se dire. Et, t'as envie de lui dire, mais c'est la base. Moi, je suis président d'un club ambitieux. Walid a raison de dire que c'est quand même super d'essayer de faire venir des mecs qui phosphorent, qui ont des idées et qui, bon, bah très souvent, malheureusement pour nous, sont des entraîneurs étrangers. C'est quand même, je sais pas, vous mettez à la place. Et encore une fois, tu te mets à la place d'un entraîneur qui arrive dans un club français. C'est vrai que c'est ahurissant de se dire que les mecs ont pas envie de comprendre un petit peu ce qu'il peut se dire d'eux dans les journaux, de comprendre un petit peu ce qu'il peut se dire.
Oui, parfois, Simon, c'est une protection, rappelle-toi.
Mais c'est du respect de soi-même.
Simon, t'es pas sérieux quand même.
Mais c'est du respect de toi-même. Tu arrives dans un pays, Kevin, mais même si c'est pour aller vendre des sandwichs, je suis désolé. Le premier truc que tu fais quand t'as un peu de temps libre, c'est d'apprendre la langue. Je suis désolé. Donc, Longoria, il faut juste, là je vais faire un peu de mauvais esprit, il faut juste le prévenir que s'il prend un coach qui fait l'effort de se mettre à parler français, s'il passe un peu pour un demeuré comme Unai Emery, il va se faire critiquer, juste parce que, alors qu'il fait l'effort lui de parler français, on va se foutre de sa gueule parce que avec l'accent c'est quand même bien marrant. Donc attention monsieur Longoria, parce que méfiez-vous, on est capable d'être très pervers France, avec les gens qui font l'effort.
Dans l'absolu. Je suis bien sûr d'accord avec Simon, quand tu arrives dans un pays, que ce soit pour être entraîneur de football ou pour vendre des sandwichs, comme tu as dit, bien sûr que tu dois apprendre la langue. Maintenant, ceci étant dit, il n'y a pas de souci. Par contre, attention, tu as dit quelque chose, et là je suis pas du tout d'accord avec toi. L'entraîneur, il n'en a absolument rien à faire de ce que tu vas dire comme journaliste ou de ce qui va être écrit. Et c'est pas du tout pour ça qu'il doit apprendre le français. L'entraîneur, il n'a rien à faire. Il travaille, il fait son travail. Et je peux te dire que comment nous, on le juge, il s'en fiche. Et de toute façon, lui, il doit se concentrer sur ce qu'il a à faire. Après, dans l'absolu, encore une fois, je suis d'accord avec Longoria, mais attention. Ça veut dire que tu ne prends pas Marcelo Bielsa parce que lui, peut-être qu'il n'a pas de... Parce que les langues, bon moi j'ai une facilité pour les langues personnellement, mais il y a des gens qui n'ont pas la facilité pour les langues. Et donc il y a des entraîneurs, peut-être qui sont d'excellents entraîneurs, comme Marcelo Bielsa, peut-être comme Sampaoli ou Tudor, qui vont rester un an, deux ans, qui se disent, moi j'ai envie de... Et c'est ce que disait Pochettino, qui parlait un peu français. Et ça, moi je trouve que quand tu parles un peu français, fais l'effort, ok? Mais... Il avait un argument que je peux entendre également. Il disait, moi, quand je parle à mes joueurs ou quand je parle à la presse, j'ai envie de choisir les bons mots et j'ai envie qu'on me comprenne. Et ça, c'est un argument qui est difficilement contournable.
Un avis, Walid, sur le sujet?
Non, sur le LV2, LV3, là, j'ai pas forcément d'avis.
Alexis Sanchez, messieurs, je vous en parlais tout à l'heure.
LV2? Bah, non. Déjà, LV1, c'est compliqué.
Parle pas anglais.
Non, enfin, LV-1, c'est-à-dire la France.
Ok, mais l'anglais, tu parles.
LV-1.
Déjà, j'essaye de...
Mais en troisième,
avec Nico, on fait des cours à 17h le lundi soir.
C'est quoi, c'est la cinquième ou la troisième?
Il faut travailler d'abord la base.
La cinquième, c'est moi.
En cinquième, c'est... T'as pas parlé anglais?
Si, j'essayais. Il y avait le prétérite.
Le prétérite. J'adore quand il dit ça, le prétérite.
Les verbes irréguliers. Les verbes irréguliers.
Tu veux dire une phrase en anglais? Tu peux en dire une phrase en anglais?
Hello?
Je veux que... Ou alors je veux qu'Alexis Sanchez reste à Marseille.
I want Alexis Sanchez to stay in the Olympique de Marseille.
Very bravo, good. Very good.
Il y a un truc.
Bravo pour ce cours d'anglais, mon cher Walid. Alors justement, on en parle d'Alexis Sanchez puisque l'Arabie Saoudite aime beaucoup également Alexis Sanchez.
Non, ils vont pas nous prendre tout le monde.
Très intéressé, un club saoudien est prêt à lui offrir un contrat d'une saison et une autre en option, lui verser un salaire de 10 millions d'euros, selon le toujours très informé Fabrizio Romano, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Je rappelle que c'est net d'impôts, on paie pas d'impôts quand on va jouer en Arabie Saoudite. Voilà, les gars.
Voilà. Je m'attendais pas à cette nouvelle, mais honnêtement...
Marseille veut le garder, je rappelle également le contexte, et Paulo Longoria serait prêt à revaloriser nettement
d'un côté,
son contrat.
Que 10 millions, alors que c'est du coup 100 millions pour Benzema.
C'est pas ballon d'or, là, tu vois, c'est pas pareil.
Mais bon, 10 millions, c'est pas beaucoup pour Alex Sanchez.
Ah, c'est quand même... Il y a le bon critère, il
double non,
il a plus 30
millions d'euros nets, les gars. Ouais. Je vous le dis encore une fois, il n'y a pas d'impôt, c'est dans la poche.
Bien sûr,
il ne ressort jamais.
Non, et puis là-bas, je pense que tu as la carte... T'as la carte blanche, quoi. C'est-à-dire que.
Ah, mais tu payes rien,
moi. Je pense que.
T'as la maison.
Je crois que t'as la carte essence.
Ah, t'es dans Rabot, hein. T'es dans Sims.
T'as la carte qui resto, hein.
Ah, mais je pense que. Qui resto, passe Navigo.
Ouais, ouais,
tout, la babysitter.
T'es limitax, hein. T'es limitax.
Ouais.
Encore.
T'as le cuisinier à la maison?
Ah, ouais, non, je pense que t'as tout.
Encore un grand joueur qui a plus de 34 ans, qui est un peu. Voilà, ça ne vise que des joueurs comme ça. Parce qu'ils savent qu'évidemment.
Mais des joueurs pas totalement cramés, hein. Tu fais gaffe, quand même.
Attention,
pas totalement cramés, quand même.
Qu'est-ce qu'on entend depuis, là, il y a une incertitude sur est-ce qu'il va rester, machin. On t'explique qu'il attend de connaître le profil de l'entraîneur, les contours du vestiaire. Normal. Parce qu'on sait qu'avec Longoria, c'est 40 ou 50% de vidange, là, à l'intersaison. Donc, il attend de savoir avec qui il va jouer. Il attend de savoir s'il va être, bon, on nous explique qu'il aime la ferveur, machin, qu'il est tombé amoureux, machin. Et on va nous vendre que, c'est le projet sportif en Arabie Saoudite, parce qu'évidemment, il est question de sport.
Après, attention, Alexis Sanchez, à Simon, il a toujours été comme ça, Alexis Sanchez. Hein. Il prend ses sous, il vient, il fait son boulot, il fait son job.
Il aime les gros contrats. D'une façon exceptionnelle. Moi, j'avais une fausse image d'Alexis Sanchez parce que ça s'était pas bien passé, notamment au Barça, avec son caractère. Il y avait eu des soucis. Et j'étais passé à côté du fait qu'il est de ces mecs-là qui apportent ses exemples, c'est-à-dire il arrive 2 heures avant les autres,
il reste 2 heures après.
Et c'est ce genre de mec qui t'entraîne tout le monde derrière eux. Donc bon, si on apprend qu'il va en Arabie Saoudite, effectivement, comme
moi, je serais pas choqué, moi. Moi, Alexis Sanchez, il a fait une saison, que ce soit pour l'Olympique de Marseille ou pour Alexis Sanchez. Peut-être aller voir ailleurs, des deux côtés, si t'arrives à avoir un. Bien évidemment, ça sera un manque qualitatif, parce que là, cette année, on a encore vu que l'OM, sans et avec Alexis Sanchez, c'était différent. Mais il a quel âge? 34, 35 ans?
34,
je crois. 34 ans, il aura 35 ans.
Voilà, 34 ans, tu peux aussi te poser la question avec son salaire, etc. Si le joueur veut partir, t'essaies de trouver quelque chose de meilleur. Même si les débuts de Vitinha font très, très peur, je pense que tu peux quand même te renforcer dans ce secteur-là. Et je suis pas surpris qu'Alexis Sanchez ait les yeux doux quand on lui offre ce type de contrat.
On est surpris pour aucun d'entre eux. Hein.
Oui, mais encore. Oui.
Voilà les gars, pour l'Olympique de Marseille. Dans un instant, on va accueillir Johan Crochet, qui va nous parler de la légende Paolo Maldini, qui après des décennies au Milan va quitter le Milan
en Arabie Saoudite.
Je me posais la question sur le débat Arabie Saoudite. Est-ce qu'il y a un plus 5, plus 6 comme en salle de sport? Tu sais, en salle de sport, t'as ta carte toute l'année, et tu peux ramener un plus 1, un ami à un moment donné. Est-ce qu'en Arabie Saoudite, il y a aussi plus 5, plus 6 personnes avec toi?
Non, t'as la salle de sport chez toi, à mon avis. Ah oui, les livraisons.
D'accord,
place. Ok. Faut, t'as une salle.
Est-ce que t'es en illimité, toi, et aussi tes amis?
Est-ce que t'as un bracelet?
Est-ce que t'as un bracelet all, pas inclusive, mais all.
On sait que Messi a plus 1, plus 2, plus 3, et tous ses potes du Barça. Donc voilà. Ça, c'est prévu dans son contrat également. Dans un instant, Yvan Crochet avec nous parler de Paolo Maldini, une page de tourne au Milan. Restez avec nous, Génération After, avec Kevin Diaz, Simon Dutin et Walid Acharchour.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas avec Jamin. Simon Dutin, avec Kevin Diaz, avec Walid Acharchour. Vous écoutez Génération After. À 22h, Gilbert prend le relais avec Thibaut Leplat et Daniel Riolo. Le tennis, on approche de la fin, mon cher Eric. Salut. 2-0 dans le 3ème set pour Alcaraz, Eric.
Et il est parti ailleurs, Tsitsipas. Il n'y est plus parce qu'il est KO. Il est KO. Ouais. 6-2, 6-1, 2-0. Voilà. 3 balles de 3-0, 1h18 à la pendule. C'est presque une session féminine. Elle est géniale, Amélie Mauresmo. Elle a réussi à instaurer une session féminine.
Il n'y a toujours eu pas de match féminin en Night Session, voilà, faut le dire.
J'en suis sûr, on a eu un.
Ah, si. C'est ça. Tout à fait.
Ouais. 3-0.
Allez, 3-0.
On parle du numéro 1 mondial contre le 5e mondial.
Il va se qualifier pour une demi-finale face à qui? Novak Djokovic. Voilà, si.
Vendredi, oui.
Ce sera vendredi. Johan Crochet est avec nous. Salut, Johan.
Salut Nico, bonsoir à toutes et à
tous.
Salut,
Johan, tu l'avais plus que pressenti, même annoncé hier dans Génération After spécial Drôle de Dame. Séisme à Milan, Paolo Maldini, directeur technique du club, s'est fait virer aujourd'hui, 4 ans après son intronisation. Ils ont touché à la légende, Johan.
Ouais, mais on va dire que pour une décision forte, c'est une décision impopulaire, clairement, pour le moment, parce qu'on a déjà vu des supporters du Milan aller devant le siège du club avec quelques pancartes et banderoles de mauvaise facture pour Jerry Cardinal et le boss de Redbird qui s'occupe donc de l'AC Milan. Mais c'est une décision qui a été réfléchie, qui s'appuie sur pas mal de critères et qui d'une part peut sembler logique, on va y revenir après, mais c'est vrai que aujourd'hui, Jerry Cardinal a pris un risque, clairement, parce qu'il n'y a plus de fusibles et que là, il est en première ligne, clairement, aujourd'hui. Et que si ça se passe mal, on va tout de suite le ressortir, la carte Maldini.
Maldini qui reste quand même, comment tu joues son bilan à Maldini? Je rappelle, c'est un homme qui était déterminant dans les arrivées de Théo Hernandez, de Tomori, de Kaloulou,
Mike Maignan,
Ibrahimovic, Ismaël Benacer, Léao,
quand même de Ketteler.
De Ketteler, exactement.
Visiblement, ça, ça pose problème.
Il a quand même construit le succès.
C'est un peu ingrat, là, mon cher Johan.
Alors, le bilan, il est forcément positif parce que si on regarde déjà les résultats, l'équipe a été en progrès constant depuis l'arrivée de Maldini. Elle a remporté un titre important, le Scudetto. Elle a fait une demi-finale de Ligue des Champions. Et, oui. Et ça, c'est très important pour le rayonnement de l'AC Milan sur tous les continents. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour Redbird et pour la majorité des propriétaires étrangers qui sont en Serie A. Mais il fait pas tout seul non plus. Alors évidemment, moi je connais le storytelling de nous raconter que Maldini, c'est lui qui a tout fait pour Hernandez, pour Maignan, pour tous ces joueurs-là, etc., etc. Moi je peux vous dire que Théo Hernandez, avant le rapport de scouting qui est tombé sur son bureau, il le connaissait pas. Voilà, première chose. Parce qu'il y a des gens à Milan qui le suivent depuis qu'il a 17 ans, Théo Hernandez. Et c'est pas Paolo Maldini. Même chose pour Maignan. Il y avait d'autres pistes. Et la piste de Maignan n'a pas été poussée au départ par Maldini. Donc il y a beaucoup de choses, évidemment, qu'il a des responsabilités dans ce qui s'est passé de bien à Milan, et ce serait totalement faux de le dire, parce que déjà, c'est le directeur technique, et c'est lui qui a chapeauté tout le département technico-sportif du club, donc ça, c'est important.
Et puis les validations, ensuite, c'est quand même lui, Johan, non?
Ah mais bien sûr qu'il faut valider, qu'il faut ensuite parler aux joueurs. Il a été très important dans les discours aux joueurs pour finir de les convaincre de venir. Il a aussi été très important au quotidien, pour les joueurs, pour c'est quelqu'un, c'est pas un directeur technique qui était dans son bureau enfermé, hein, c'est un directeur technique qui était tous les jours à l'entraînement, qui parlait avec les joueurs, qui les rassurait quand ils avaient besoin d'être rassurés, qui les poussait quand ils avaient besoin d'être poussés, qui partageait son expérience quand c'était nécessaire. Donc évidemment que tout ça est extrêmement positif. Maintenant, Cardinal s'appuie aussi sur des éléments dans son choix. Il l'a pas fait. Voilà, il s'est pas levé un matin du pied gauche en disant bon bah Maldini non j'en ai marre.
C'est pas comme ça. C'est quoi la raison alors?
Faut être costaud pour dégager Maldini quand même.
C'est quoi la raison, mon Dieu.
Alors la raison, je vous invite déjà à aller lire. J'ai fait un long papier sur le site de RMC Sport, donc on n'aura pas le temps de tout détailler là à l'antenne, mais il y avait un premier problème de vision. Maldini, pour lui, et c'est aussi son passé de joueur dans un Milan conquérant, gagnant, vainqueur de tous les trophées possibles et imaginables, qui l'ont amené à avoir cette type de réflexion-là, Maldini estimait qu'il fallait beaucoup d'investissements cet été. Et quand je dis beaucoup d'investissements, c'est que pour lui, par exemple, un budget de 70 millions d'euros n'était pas suffisant. Or, on sait très bien que Redbird ne construit pas ses succès sportifs comme ça. Redbird travaille sur le long terme, avec évidemment des dépenses hein, sur le court terme, mais c'est des dépenses raisonnées, c'est des investissements raisonnés et non pas déraisonnés, comme Maldini a été habitué, par exemple, sous Berlusconi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur la méthodologie de travail. Maldini étant un directeur technique, directeur sportif, appelez-le comme vous voulez, c'est un peu des deux, qui travaillait à l'ancienne. C'est aussi un héritage de son passé de joueur, parce qu'à l'époque, on travaillait comme ça et qui s'est pas trop mis à jour. C'est quelqu'un qui disait « je veux tel joueur », il allait voir le propriétaire en disant « donnez-moi l'argent, je veux tel joueur ». Sauf que le propriétaire, d'abord, c'était Elliott, un fonds américain, ensuite Redbird, fonds américain. Et les Américains aiment bien avoir plusieurs options sur la table, que les recommandations soient objectivées, entre guillemets. Donc il faut des rapports de scouting, il faut des datas, il faut plein de choses qui sont aujourd'hui logiques et tout à fait normales dans plein de clubs. Chose que faisait pas Maldini, qui lui dit « bah moi j'ai les yeux, donc j'estime que tel joueur il est bon pour Milan ». Donc sur la méthodologie de travail, les habitudes de travail, il y avait beaucoup d'éléments qui coinçaient aussi également. Troisième élément dont j'ai parlé dans le papier… Il y a quelque chose qui commençait à être très reproché à la fois en interne et aussi dans le microcosme milanais, on va l'appeler comme ça. L'omniprésence de Giuffrida, l'agent de Stefano Pioli, dans tous les choix du club. Et agent de certains joueurs sous contrat à Milan, qui sont arrivés comme par hasard une fois que Pioli était installé à Milan, qui s'est mis dans beaucoup de deals, y compris des deals internationaux importants, à qui on ouvrait à peu près toutes les portes, des vacances aussi parfois. Donc il y avait cette omniprésence-là qui commençait à agacer tout le monde et qui était pas compatible avec, encore une fois, la vision de Redbird et la vision d'un club moderne qui ne doit pas s'appuyer simplement sur les recommandations de copains agents, mais sur,
des données précises, effectivement. Bon, on en reparlera sûrement.
Il y a d'autres éléments.
Sur le site de RMC Sport, je vois ton article là, publié sur le site par Johan Crochet. Merci Johan, on t'envoie Oussem Aouar. Hein. Occupe-toi bien de lui à la Roma. Hein. On en reparlera également. Bien sûr, l'OL a officialisé son départ. Bonne soirée à toi Johan, à très vite sur RMC. Dans un instant, l'after avec Gilbert, bien sûr, Daniel et Thibault Leplat. Merci Kevin. Merci. merci toi. Simon. Merci.
Merci messieurs.
Merci Salut, Walid. Demain, toi, Julien Stéphane, merci. Notre invité dans Génération After de 20h à 22h.
Salut les collègues.
Merci pour l'accompagnement, les amis. Bonne soirée à tous. C'est la suite de l'écarissage sur le cours central. C'est avec Eric Salio. Dans un instant, dans l'After, jusqu'à minuit. Bonne soirée à tous.
Génération After.